Travel.
Bien joué Jean-François, camembert jaune.
Non mais là on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça on sera tranquille, on aura de la marge.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration. Hein ? Ça, on joue pas aux petits chevaux là, là c'est la cour des grands là.
Olivier Mine, c'est la carte mystère.
Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens.
Veuillez m'excuser, cette dernière main a failli me tuer.
C'est un sort, Will !
Je sais pas quoi faire !
Balance-lui une boule de feu,
que je fasse au minimum 13 !
Non, c'est trop risqué !
Vous entrez dans le mystérieux club des platistes. Ici, on est obligé de s'amuser. Les rabat-joies ne sont pas les bienvenus. Nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, sur Prune. Tous les mystères de l'univers du jeu de société vous seront révélés. Vous découvrirez les nouvelles sorties, l'histoire d'un jeu de société et les plus noirs secrets du business ludique. À vous de jouer!
Bienvenue dans l'émission du Club des Platistes. Pour cette troisième émission sur les jeux de société, nous avons décidé de creuser un peu plus du côté société que du côté jeu. La société et les jeux avancent-ils en adéquation ? La société évolue. Est-ce que les jeux en font de même ? Le traditionnel jeu de cette famille est-il toujours adapté à nos schémas familiaux actuels ? Dans une société de plus en plus woke, adaptons-nous nos façons de jouer et de voir le jeu ? Et est-ce que les jeux s'adaptent à tout le monde, à toutes les différences, à toutes les formes du spectre humain ? Le jeu est-il inclusif ou exclusif ? Ce n'est sans doute pas si binaire, et c'est bien pour ça que le club a souhaité explorer toutes ces zones grises. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Gildouen.
Bonjour.
Anne-Lise.
Hello.
Antoine.
Bonjour.
Azilise.
Bonjour.
Cyrielle.
Bonjour.
Et moi-même, bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir et le déplaisir de vous présenter trois jeux qui, pour nous, s'inscrivent et s'adaptent à notre société d'aujourd'hui. Ainsi que trois jeux qui ont pu nous choquer ou nous mettre mal à l'aise vis-à-vis de nos différences, que ce soit l'âge, le sexe, la culture, l'handicap, l'identité ou l'orientation sexuelle et amoureuse, les troubles cognitifs, et de toutes ces différences qui rendent le monde beaucoup plus beau. Au programme, des discussions, de la rigolade, des coups de gueule, des remises en question, des histoires et de l'actualité. Et nous terminerons, évidemment, sur un jeu, le jeu des privilèges. Parce qu'on est quoi ?
Des joueurs !
Ah, j'aime bien cette harmonie. Est-ce qu'on peut retenter avec un autre mot que je vais vous montrer ? Alors, vous allez lire ce mot, donc je vais redire la phrase. Et nous terminerons, évidemment, sur un jeu, le jeu des privilèges, parce qu'on est quoi ?
Constipé !
C'est moi.
Super, je suis content de le savoir. Alors, pour démarrer, nous allons écouter Cyrielle qui va nous énigmer de son énigme.
Oui. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui est chauffeuse de taxi. Elle est hyper pressée, cette chauffeuse de taxi, et elle s'engage dans une ruelle à sens interdit. Elle y va, à fond, et là, elle se fait arrêter par un policier. Ils discutent tous les deux un petit peu et la chauffeuse de taxi repart tranquillement. Comment cela se peut-il ?
Oh là là.
Je comprends pas.
Bah, respectez pas le code de la route, toi, ça te choque pas, Anne-Lise ?
Je comprends pas, on a pas le droit d'aller dans des ruelles sans interdit.
Quand on est rentré la dernière fois, on a pris le sens interdit.
Moi, j'ai deux options dans la tête.
Ah non, hein, Gildouen, tu gagnes à chaque fois.
Ouais.
Gildouen, tu te tais.
Je vous laisse réfléchir, mais voilà, j'ai. J'ai quand même deux petits cas de figure.
Mais je comprends pas, il y a trop de trucs à dire, genre.
T'es déjà en train de bosser sur l'énigme, je te vois. Je te vois écrire.
Boss.
Résultat à la fin de l'émission, pas de spoiler alerte.
Non, voilà, j'attends la fin pour dire mes hypothèses.
En effet, merci Cyrielle. Donc, comme tu disais, on va avoir la réponse à la fin de l'émission. Alors maintenant, on va plutôt passer à nos jeux qui nous ont pu nous choquer, nous rendre mal à l'aise en tout cas, quand on était enfant, adolescent ou même maintenant. Donc on va avoir trois jeux qui sont présentés, un par Antoine, un par Gildouen et un par moi-même. Et c'est parti pour Antoine sur le jeu Les Mystères de Pékin.
Sale affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés. Bref, mon enquête piétinait. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé. C'était Chao Ling, le meurtrier. Les Mystères de Pékin, un jeu MB.
Ah, Les Mystères de Pékin. Probablement un des jeux les plus vendus de mon enfance. Et je pense encore aujourd'hui, j'ai pas trouvé les chiffres. Alors pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on va interroger des témoins pour trouver un coupable. Et donc on s'arrête un peu sur ce jeu. Alors si on commence par le genre, déjà tous les suspects sont masculins et les seuls personnages féminins de ce jeu, on les trouve évidemment dans un salon de beauté, mais dans oui. un palais mais ou dans, dans une bijouterie. Et puis les témoins masculins, ils vont être au restaurant, au port, au marché ou dans le temple, le sage, voilà. Ce qui fait probablement le succès de ce jeu-là, c'est que en fait trois personnages dans l'enquête vont proposer des façons un peu amusantes de décrypter leurs propos. Il faut lire une carte avec un miroir, derrière un calque rouge. Je crois que dans la réédition, maintenant, il faut frotter. Mais quand j'étais petit, moi, c'était une carte où c'était marqué « Spy ». Et puis, bref, ça nous indiquait le lieu du... de où trouver le coupable. Mais bon, ce qui a fait le succès, je pense aussi des mystères de Pékin, ce sont les jeux de mots vaseux, hein, teintés d'humour raciste. Donc le poissonnier s'appelle comment ?
Chang Pabou.
Voilà, la laverie.
Monsieur Lipreching.
Lipreching, le restaurateur.
Monsieur Rialo.
Rialo, le salon de beauté. Miss Fong Tang. Oui. Voilà. Donc, dans les suspects, on trouve Pat Chouli, Ping Pong, Dino Lee, Ai Oli. Et dans les détectives, on a Doréming, Ousson Metong.
Mon préféré. Ouais.
Donc, dans les années 80, quand ce jeu est créé, bon, on est encore à une époque où on est bien décomplexé avec les blagues racistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les supermarchés, dans les années 90, il y avait les galettes Saint-Michel qui avaient sorti des biscuits qui s'appelaient Bamboula. Ça, je sais pas si vous... Moi, je m'en rappelle de ça. Voilà. Ils avaient même fait un village Bamboula au Safari Park.
Oui,
là,
qui oui, s'appelle Safari le Park. Ouais.
Bref, donc on est décomplexé et on pourrait se dire bah, peut-être qu'aujourd'hui, on le ferait un peu moins. Et pourtant, ça marche encore. Alors moi, les questions que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte cet humour raciste ? Et est-ce que, par exemple, on imaginerait... Alors, j'avais pensé le jeu Les Mystères de Jérusalem avec les jeux de mots sur les Juifs et les Palestiniens, Les Mystères d'Alger avec des jeux de mots sur les Arabes, je ne sais pas si ça marcherait. Et donc, au fond de ça, est-ce que ça contribue à notre manque d'empathie avec ce qui peut se passer en Chine actuellement ? Je ne sais pas, est-ce qu'on se permet plus de racisme envers les Chinois ? Ouais, je ne sais pas. Mais c'est quand même un jeu qui me pose question. Et alors, j'ai regardé la réédition et effectivement, c'est... Ça va quasiment pas changer, quoi. C'est les mêmes blagues vaseuses. Enfin, voilà, bref.
Hyper d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, on est vache. Enfin, j'ai l'impression qu'on est encore assez décomplexé avec une discrimination envers les Asiatiques. Alors que certaines de blagues ne passeraient pas du tout sur d'autres nationalités. Mais les Asiatiques, on a encore un peu le droit de taper dessus, quoi.
Surtout que ça se fait évidemment avec l'accent. Hein, donc je ne l'ai pas fait, sûr. Mais on imagine bien le jeu avec les personnages.
Il y a des choses qui nous choqueraient et pourtant qu'on trouve encore acceptable.
Et surtout que c'est quand même un jeu familial où moi aussi je jouais beaucoup quand j'étais petite. Donc du coup, tu t'habitues à rire de ça déjà jeune. Donc c'est sûr qu'après, ça te paraît normal.
Voilà pour les mystères de Pékin.
Alors moi je vais reprendre sur plutôt la mythologie et la fantasy. Alors j'ai plusieurs jeux en tête, donc j'en ai pas un à présenter spécialement. Donc ça peut être du Seven Wonders ou tous les jeux un peu fantasy ou de mythologie auxquels vous pensez. Moi si je veux un peu taper sur la table et avoir un petit coup de gueule sur ce genre de jeu, c'est-à-dire que c'est deux mondes que moi j'adore, que ce soit par les livres, les films, la mythologie, la fantasy. Je trouve que c'est des mondes à explorer qui sont super, mais qui restent quand même très patriarcales. Et très, à part les elfes qui sont quand même plutôt androgynes, je dirais, il y a des nains, des hommes. Alors même si aujourd'hui on peut trouver de plus en plus de films dystopiques avec des héroïnes, comme du Hunger Games ou des choses comme ça, ça reste quand même des femmes blanches et cis aujourd'hui. Dès qu'on parle un peu de représentation, dès qu'on met un elfe noir dans une série télé... là dernièrement.
C'est une catastrophe,
oui. Oui, c'est ça. Il y a eu La Petite Sirène où c'était aussi une femme racisée. Aujourd'hui, dès qu'on essaye un petit peu de toucher à tous ces mondes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et bah, moi, je ne suis pas d'accord contre les gens qui ne sont pas d'accord, puisque je trouve qu'au contraire, il faut faire évoluer ces mondes aussi. Si on était resté bloqué à nos anciennes représentations d'il y a 100 ans, on n'en serait pas là. Donc, si on ne peut pas faire évoluer tous ces mondes et toutes ces représentations dans lesquelles aussi les jeunes évoluent aujourd'hui, la fantasy, etc. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. À côté de ça, moi, en tant que personne queer, je ne me suis pas forcément trouvé représentée dans ces mondes aussi. Plus facilement, moi, je prenais des personnages comme des princesses, des fées, etc. Parce que clairement, le vieux guerrier barbu, bon, voilà, moi, je ne m'y retrouvais pas du tout là-dedans. Alors qu'au contraire, même les mondes comme la mythologie continuent aussi à contribuer à l'idée de la femme vengeresse, les harpies, les femmes dans la mythologie se font violer. Donc ça contribue tout ça à l'image un peu de l'idée de la fameuse phase femme hystérique. Je trouve aussi. Donc tous ces mondes-là, je trouve que sont comme amenés à être évolués, que ce soit dans les jeux, les films, les séries, etc. Donc est-ce qu'on doit vraiment rester bloqué dans nos anciens schémas ou est-ce qu'on peut peut-être faire évoluer aussi ces mondes ? Voilà, c'était mon petit point coup de gueule sur ces mondes-là que j'adore pourtant. Et je passe la main à Guildwen sur le jeu. Bonjour Simone.
Bon, c'est difficile de passer après ces deux coups de gueule.
Alors,
Mais voilà, bon, le jeu Bonjour Simone, c'est quoi ? Bonjour Simone, c'est la version féminisée de Bonjour Robert. Les cartes impliquent des noms différents, mais le mécanisme est le même entre les deux jeux. Donc le premier joueur retourne une carte. Si un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer immédiatement et de la bonne manière. On se touche le nez pour saluer l'esquimaude. On dit Hug à l'indienne, ou Hug à l'indienne, en levant la main. On dit Namasté à la népalaise, en joignant les mains. Et on dit « Bonjour Simone » à Simone. Évidemment, on ne salue pas une aubergine ou un yeti, puisqu'il y a également d'autres cartes. Et tout s'enchaîne très rapidement pour qu'on s'en mêle les pinceaux et vite faire varier tous ces beaux sons. Et donc, si quelqu'un se trompe ou marque une hésitation, il ramasse les cartes déjà posées. Sinon, le jeu continue. Et attention à la bouche enfin, le dernier à lui taper dessus ramasse également toutes les cartes. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes, il a gagné. Vous l'avez donc remarqué, Simone, la femme blanche, est la seule dans ce jeu qui a son prénom. Pour les autres, on caricature des expressions et on imite voilà, de façon un peu moyenne.
D'accord.
C'est vrai que quand on avait joué ensemble avec Cyrielle et Guildwen, il y avait une autre personne qui était entrée dans la pièce qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que c'était vachement gênant parce qu'on était en train de dire on fait des trucs hyper racistes et qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire.
Mais c'est assez gênant parce qu'il y en a plein d'autres et là on n'en a pas parlé, mais le jeu de cette famille aussi en termes de représentation, je trouve, de famille. Déjà, dès que tu sors un petit peu de ce schéma familial, du coup, tu as l'impression d'être étrange, d'être à côté, de pas rentrer dans les normes.
Bien sûr.
C'est ce qu'on t'apprend enfant, en fait.
Exactement, mais c'est très représentatif de ce qu'on apprend aux enfants et de ce que nous, on a appris aussi et que des fois, on réalise après. Enfin, exemple typique classique, mais quand on voit ce qu'on lisait Tintin au Congo, voilà, c'est vraiment l'exemple classique, mais c'est vrai quoi. On l'a lu, pareil pour tous les jeux que vous avez cités tous les trois, pour les mondes fantastiques. J'adore Harry Potter, des fois c'est dur, tu vois, tu disais je continue à aimer ce genre de monde, mais j'adore Harry Potter, je les ai relus il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas à brûler, hein, mais il y a des choses où j'étais un peu en mode d'accord. Et c'est des choses qui passent de manière très subtile dans la tête des enfants, quoi.
Oui, et puis parce que c'est des mondes imaginaires, c'est comme si c'était un petit peu plus excusable, en quelque sorte, peut-être.
Ça se réfléchit, effectivement, ouais.
Alors, pour terminer sur ces jeux plutôt négatifs, en tout cas, il y en a plusieurs. Peut-être que vous-même, vous avez certains jeux aussi auxquels vous avez pensé. Pour continuer, maintenant, on va lancer la chanson de Eddie Depreto qui s'appelle Kid.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopés de chair de nerfs protéinés. Tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
C'était Eddie Depreto avec sa chanson Kid. Azilis va maintenant approfondir la question de société et de jeu. À toi la parole.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
L'accessibilité des jeux de société aux personnes handicapées est une préoccupation de plus en plus importante. Donc évidemment, dans la grande majorité des cas, les jeux, ça se joue à plusieurs. Donc il faut communiquer pour jouer. Donc, la surdité peut être un problème pour jouer. Ça peut être difficile de participer à un jeu pour une personne sourde ou malentendante quand tout le monde autour d'elle parle une langue orale. Pour lutter contre ce problème, l'association nantaise Droit de Jouer propose de réunir des personnes sourdes et entendantes autour des jeux de société. Donc, en fait, l'association organise des parties qui sont en langue des signes française, en LSF. Les règles sont expliquées aussi en LSF. On peut participer donc si on est sourd ou sourde, mais aussi si on est entendant-entendante. Et si on ne parle pas la langue des signes française, il y a d'autres personnes qui peuvent traduire, qui sont en cours d'apprentissage par exemple. L'association propose aussi des animations en festival, ludothèque, centre de loisirs. Et sur le site, on peut aussi trouver des vidéos de présentation de règles de jeux de société en LSF. Donc on va rester du côté du handicap sensoriel et on va parler du handicap lié à la vue et notamment des daltoniens et daltoniennes. C'est une affection qui touche plus particulièrement les hommes que les femmes. Ça touche une femme sur 200. Et à votre avis, combien ça touche d'hommes?
J'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup.
Sur 100?
Il y en a beaucoup. C'est pas sur 100, je peux pas faire le calcul de tête. Ah,
non, je voulais dire 1 sur 100.
Ah, 1 sur 100, non, c'est beaucoup plus que ça.
Ah oui.
100 sur 100.
Non, c'est 1 sur 12.
Ah, j'allais dire 1 sur 2, j'étais complètement partie, n'importe quoi.
Et donc, qu'est-ce que ça change d'être daltonien ou daltonienne quand on joue aux jeux de société? La couleur a une place importante dans plein de jeux. Elle sert souvent à distinguer les pions ou le matériel de jeu en général. Et parfois, c'est vraiment un ressort du jeu, comme dans le Uno. Mais cette question de non-différenciation des couleurs, enfin de daltonisme, c'est de plus en plus pris en compte. Il y a souvent une double différenciation. Ça veut dire qu'on peut distinguer des cartes par une couleur et un symbole, comme dans Les Aventuriers du Rail. Ou alors, de plus en plus de jeux utilisent la couleur, mais juste de manière décorative. Ce n'est pas vraiment utile pour le jeu. Il y a aussi une attention qui est portée au contraste, au niveau des cartes. Et il y a certains jeux, comme celui dont je vous ai parlé le mois dernier, Sea Salt and Paper, qui utilisent le langage Color Add. Et ça, en fait, c'est un langage qui permet de symboliser chaque couleur. Donc, il y a 5 symboles. Pour les 5 couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, blanc, noir. Et donc en fait, en voyant le symbole sur la carte, la personne peut savoir de quelle couleur est la carte. Et on peut combiner ces symboles pour symboliser des couleurs secondaires. Et puis aussi, il y a du matériel pour les personnes aveugles, en relief, en braille, etc. Alors maintenant, on va aborder une autre forme de handicap, qui est le handicap mental. Il peut être parfois difficile pour des personnes qui ont un handicap mental de comprendre les règles, d'autant plus qu'il y a des règles qui sont franchement incompréhensibles.
Vas-y.
Vaza, bien joué. Vous gardez votre joker. Vous avez 10 trouillons. Damien, vie ma vie ou sang du fion ?
Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul.
Vous avancez de 3 mouflons et vous tombez en case. Au théâtre ce soir, 5 secondes de Micheline Dax.
Je contre et je porte une gourmette en pull.
Bon, franchement, j'ai pas compris grand-chose. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est des jeux trop longs, où il y a une trop grande place à la stratégie, à la mémorisation. En fait, tout dépend des personnes. Il y a beaucoup de jeux qui vont nécessiter une adaptation et ou un accompagnement. Par contre, le danger, ça peut être parfois d'infantiliser un peu les personnes avec lesquelles on joue. Parfois, on a envie de choisir des jeux parce qu'ils sont simples, mais ils peuvent du coup avoir des thématiques hyper enfantines et du coup être juste un peu chiantes, quoi. Il y a une autre question que je me suis posée cette fois-ci sur le handicap psychique. Il y a beaucoup d'interactions dans les jeux de société et ça peut être compliqué pour des personnes qui ont des troubles de l'interaction comme l'autisme. J'ai eu des élèves autistes et j'essayais de jouer aux jeux de société avec eux et c'était parfois compliqué. Il y avait l'un de mes élèves qui n'était pas du tout intéressé. Il avait envie de manipuler le matériel, les figurines, etc. Par contre, il n'était pas vraiment dans le jeu avec les autres et je ne sais pas du coup s'il y a des méthodes et des techniques pour faire entrer les personnes autistes dans les jeux, ou si juste si c'est pas forcément adapté, s'il y a des jeux plus ou moins adaptés, je sais pas si.
Parce qu'Azilis est professeur des écoles, hein, je sais pas.
moi je dirais que il faudrait simplifier peut-être le graphisme des jeux, parce que c'est plutôt si t'as un plateau de jeu avec beaucoup d'éléments. Si t'es une personne avec des troubles autistiques, ça peut être compliqué d'avoir autant d'éléments justement de couleurs, de formes, de choses comme ça qui sont dessus. Ça peut être trop stimulant. Donc imaginez, il y a déjà ça sur le plateau, plus il y a les bruits qui sont autour, plus les joueurs qu'il faut écouter, plus je sais pas une sonnerie plus loin, etc. Ça fait peut-être beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc peut-être déjà, en termes de concentration, je dirais si c'est un jeu où il y a beaucoup d'éléments, il faut se concentrer. Il faut déjà éviter tout stimuli, on va dire, extérieur, déjà, pour essayer de se concentrer au plus possible sur son jeu. Après, voilà, c'est peut-être, en effet, simplifier peut-être juste le graphisme du jeu. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'une personne avec des troubles autistiques a souvent aussi des visions différentes. Il y a un test qui s'appelle le test Comvar, qui permet d'évaluer aussi la compréhension des images, des schémas, etc. pour les personnes avec des troubles autistiques. Donc, est-ce que la personne va préférer la couleur, le dessin, le schéma, voilà. Enfin, il y a plusieurs formes aussi. Donc, ça peut être difficile, en effet, de toute manière, quand on est professeur ou instituteur, parce qu'on n'a pas forcément la formation pour, et on ne sait pas tout ça. Donc moi, je dirais de toute manière, c'est comme tu disais, c'est accompagné. En effet, il ne faut pas infantiliser non plus. Il y a des choses qui sont plus difficiles, mais je dirais pour chacun d'entre nous, on est bloqué face à différentes choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les tenter et les travailler non plus. C'est juste qu'il faut plutôt faire attention, je dirais, et être bienveillant.
Ouais, j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai entendu aussi un témoignage d'une personne adulte autiste qui aime beaucoup jouer aux jeux de société. Et elle parlait du fait que pour elle, c'est compliqué tout ce qui est langage non-verbal, expression du visage, qu'il y a des jeux dans lesquels il y a un peu de bluff, etc. Peu comme ce mascarade auquel on a joué. Et que ça, c'était vraiment compliqué pour elle, parce que du coup, elle pouvait avoir du mal à interpréter ce qu'elle voyait. Et à l'inverse, les expressions qu'elle avait étaient souvent mal interprétées. Et c'est un truc auquel je n'aurais pas pensé.
Oui, c'est vrai.
Il y a une autre forme de handicap qui est le handicap physique. Et là, on ne voit pas forcément le rapport tout de suite, mais en fait, pour certaines personnes, le fait que le matériel ne soit pas forcément pratique, que ce soit des petites figurines, etc., ça peut être vraiment bloquant. Et c'est vrai que de manière générale, tout ce qui est esthétique et coût du jeu de société, ça l'emporte bien souvent par rapport à l'accessibilité. Et ce n'est pas très étonnant parce qu'on est dans une société validiste, donc une société où les personnes valides ont une position privilégiée par rapport aux autres et où ce n'est pas la priorité de rendre accessible aux personnes handicapées tout ce que nous, on peut avoir, et notamment les jeux de société. Ce qui nous donne quand même de l'espoir, c'est certaines initiatives dont je vous ai parlé. Il y a aussi des sites qui donnent plus d'infos sur l'accessibilité des jeux. Il y a Meeples Like Us et Meeples for Change. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est en anglais.
si je peux rajouter en plus, j'ai questionné un peu des amis autour de leurs difficultés quand ils étaient enfants aussi, par exemple des troubles dyslexiques, dyscalculiques, etc. Et j'ai un ami qui est dyslexique qui fait encore des fois des cauchemars sur le petit bac qui est le Scrabble, qu'on lui a imposé, que ce soit à l'école ou à la maison aussi. Parce que bon, on joue à ça à la maison, on se pose pas trop la question non plus si c'est adapté aussi à son enfant. Et à côté de ça, j'ai demandé aussi à un autre ami, donc Benoît, lui m'expliquait qu'il était dyspraxique et que lui c'était tout ce qui était Marel, Jungle Speed aussi, où lui c'était assez difficile. Et du coup, il était présenté comme un enfant mauvais joueur. Alors, en fait, c'est pas qu'il était mauvais joueur, c'est qu'imaginez la frustration de voir tous ses camarades pouvoir réussir. À jouer, alors qu'en fait, lui, c'est juste qu'il est dans l'incapacité ou il est mal accompagné dans ce sens-là.
Puis un épuisement, ouais.
Alors du coup, pour terminer, donc merci Azilise. Et maintenant, nous allons écouter Gildwen pour La Petite Histoire.
La Petite Histoire.
Alors, quand on pense à Destin, le jeu de la vie, on pense à ce jeu coloré, avec sa roue qu'on tourne pour avancer. Ce jeu qui met en vedette le rêve américain étincelant d'acheter une maison, d'entasser les enfants dans la voiture, de devenir millionnaire. Mais le jeu original de Destin, le jeu de la vie, était déprimant. Vraiment déprimant. À votre avis, de quand date Destin ?
Le Moyen-Âge.
1950. 60.
Allez, 70.
1850.
Alors, on reste sur ces propositions.
Jouer à Destin pour changer de vie.
Jouer à Destin, porter d'autres habits. Celui d'un pilote qui court sur les circuits. Celui d'une mariée à qui Destin sourit. Celui d'une vedette du Tour Paris. Celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix.
Jouer à Destin pour changer de vie.
Destin, plusieurs vies dans une partie.
Mais quel groove.
Ah, c'est les années 80 en fait.
Eh bien, le jeu de la vie a en fait plus de 160 ans.
Oh là là, t'avais raison, Zélie.
Et ses premières incarnations étaient très très différentes. Le but du jeu n'était pas d'être millionnaire, mais simplement de vivre une bonne vie, avec des objectifs nobles comme l'honnêteté, la persévérance et le travail. Et cela incluait le risque de subir des conséquences incroyablement déprimantes, comme le suicide ou la pauvreté. Oui, on parle d'un jeu. Hein. Cette description peut sembler violente. C'est pourtant ainsi que Milton Bradley a créé le jeu. Né en 1836 dans le Maine, Milton Bradley a grandi à Lowell, dans le Massachusetts, où il a abandonné l'université pour commencer une carrière dans l'imprimerie. Il a rapidement acquis un monopole. Il possédait l'une des seules machines de lithographie du Massachusetts en dehors de Boston. Et cela lui a procuré un succès fou. Mais en 1860, la catastrophe a frappé. Bradley avait imprimé des milliers de portraits d'Abraham Lincoln, espérant de fortes ventes basées sur la nomination présidentielle de Lincoln. Malheureusement, Lincoln s'est laissé pousser la barbe entre-temps. Et les portraits n'ont pas réussi à se vendre.
Mais non, trop marrant.
Et oui, ça a failli mettre Bradley en faillite.
Tout ça à cause de quelques poils.
Et voilà, tout à fait. Donc de cet échec, cependant, est né son plus grand succès. Peu de temps après, Bradley a inventé le Checkerboard Game of Life, Destin, le jeu de la vie, avec un plateau de jeu reflétant les hauts et les bas de sa propre carrière. C'est devenu un véritable succès. En 1861, il avait vendu 45 000 exemplaires du jeu et l'intégrait dans un colis de jeu connu pour les soldats de la guerre civile. En 1866, Bradley fait breveter le jeu et sécurise sa fortune. Bradley, avec son collaborateur George Tapley, était devenu un créateur à succès. Mais le but de ce jeu va au-delà du divertissement. Les antécédents de Bradley en éducation périscolaire l'ont amené à créer des jeux qui pourraient aider les gens à apprendre par le jeu. Lors de notre première émission, Brian s'était interrogé si un jeu pouvait être éducatif. Les verbes apprendre et s'amuser semblant de premier abord si difficiles à marier. Milton Bradley considérait tout comme une opportunité éducative. C'était une opportunité pour les gens d'être éduqués de la manière que Bradley pensait que les gens devaient l'être. Destin, le jeu de la vie, consiste en grande partie à emprunter la vie morale et à suivre le chemin approprié. Cette philosophie donnait au jeu de la vie un double objectif, celui de gagner de l'argent et de véhiculer l'instruction morale. Souvent, l'argent de Destin a même alimenté d'autres projets éducatifs, comme la production de fournitures pour enseignement et de matériel pédagogique. La présence de la roue sur le plateau vient du fait que Milton Bradley n'aimait pas les dés, car les dés étaient associés au jeu. Et pour la morale de Bradley, le jeu était mauvais. Comme alternative, il a développé une roue. La morale de Bradley était également profondément ancrée dans le jeu original de Destin à d'autres égards. Contrairement aux versions ultérieures, le jeu original n'avait pas d'argent. Il s'appuyait plutôt sur des carrés, pour calculer le gagnant. L'objectif n'était pas un gros fonds de retraite, mais plutôt une vieillesse heureuse. Ceux qui y sont parvenus l'ont fait en menant une vie industrieuse et en jouant le jeu avec prudence. Une des premières brochures du jeu affirmait que ce n'est que par un effort constant et renouvelé que le terrain perdu peut être regagné.
Oh là là.
Et la victoire était obtenue en étant appropriée, pas en gagnant de l'argent. Cela signifiait que les joueurs devaient courir le risque d'atterrir sur des cases déprimantes, comme le suicide, qui montrait les conséquences. Voilà, qui montrait les conséquences de jouer à destin et de vivre la vie, dans le mauvais sens. Si vous touchez la case suicide, vous êtes exclu du jeu.
Comme dans la vie, quoi.
Comme dans la vie, oui. Et donc, voilà, pour Bradley, la vieillesse heureuse était le but de la vie. C'était beaucoup plus moral dans son interprétation originale. Après sa mort, en 1911, le jeu de la vie a commencé à se transformer. De jeu de société en tant que tract moral, en jeu de société en tant qu'évasion. La version familière aux joueurs modernes fait du succès une question d'argent et de réussite, plutôt que de vertu. Ce changement peut être inévitable pour un jeu de société destiné à être joué et oublié. Un jeu sans cas suicide, débauche et ruine est moins choquant que le jeu de Milton Bradley. Mais la suppression de ces cases a également effacé la version morale de Bradley pour la vie en faveur de l'évasion et de l'argent. Cela rend quelques questions étonnamment difficiles à répondre. Quel devrait être le sens de la vie et de destin? Et quelle version du jeu est réellement la plus déprimante? Chacun pourra réfléchir personnellement à cette question, mais le plateau de jeu continue d'évoluer.
Et que du coup, l'évasion s'associe à l'argent, quoi.
Voilà, oui, oui. Ainsi, s'il est toujours possible de choisir en début de partie entre carrière rapide et études, et si le but est toujours d'avoir la meilleure retraite, le mariage n'est plus une étape obligatoire. Le joueur choisit désormais de se marier ou pas, puis d'agrandir ou non sa famille. Enfin, les animaux de compagnie ont fait leur apparition dans le jeu.
Ça a l'air terrible, mais j'ai envie d'y jouer un petit peu. Ça met un peu destin dans Destination Finale.
Ça met un peu de culpabilité parce que t'as trop envie d'y jouer en vrai. Ouais, carrément, mais c'est souvent ça.
Tu prends quel animal?
La loutre. Alors maintenant, nous allons écouter une musique du groupe Cube. Donc une musique qui s'appelle Un truc à vous dire. Alors Cube, c'est une association, mais c'est aussi un groupe de musique. Alors le groupe de musique Cube rassemble des musiciens professionnels et des jeunes adultes en situation de handicap. Depuis 2 ans, ils se retrouvent à l'Institut d'éducation motrice de la Marrière à Nantes. Les jeunes ont découvert l'univers de la musique en adaptant les instruments à leur handicap. Avec un répertoire musical résolument rock, Cube dynamite les différences. Et c'est maintenant.
C'est toujours les garçons qui vont vers les filles.
Thank you.
C'était Un truc à vous dire du groupe Cube. Maintenant que nous avons présenté tout à l'heure trois jeux plutôt négatifs par rapport à notre société actuelle, on va essayer de vous présenter trois jeux au contraire qui s'adaptent plutôt bien à nos jours. Et c'est Azilis qui va commencer avec le jeu Capital.
Retrouvez le Club des Platistes en podcast sur prune.net.
Capital avec un K, c'est Cyrielle qui m'en a parlé. Et juste après m'en avoir parlé, on a été au bar Pioche et on l'a trouvé. Et vous allez le comprendre plus tard dans l'émission, Cyrielle a un don pour ça. Donc c'est un jeu de société créé par deux sociologues, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui permet de découvrir des notions de sociologie, et notamment la notion de capital. Je ne vais pas vous détailler pour ne pas vous ennuyer. Donc en fait, au début du jeu, on tire un dé et il y a l'un de nous qui devient un personnage dominant. Et tous les autres sont des personnages dominés. On a des billets au départ qui représentent différentes formes de capital. Le joueur dominant a beaucoup plus de billets que les autres dès le début. Et ensuite, le jeu, c'est un jeu de loi. Donc, on avance et puis on tombe sur une case, on pioche une carte avec des effets positifs ou négatifs. Généralement, c'est plus à l'avantage du dominant. Donc, au début, on a l'impression qu'il gagne pas mal. Et en fait, il y a des cases spéciales. Grève générale, révolution. Et ces cases-là... elles peuvent complètement changer le cours des choses parce qu'il y a par exemple il y en a une qui permet de redistribuer à part égale tous les billets. Nous on a eu ça juste avant la fin par exemple. Donc moi j'ai trouvé assez chouette parce que ça permet de vivre les inégalités sociales et les mécanismes qui font que quand on est privilégié à la naissance, on a beaucoup de chances de rester en fait privilégié à la mort. Jusqu'à la mort. Et par contre, ce qui m'a un peu gênée, c'est le côté aléatoire du jeu où en effet, avec ces cartes qui peuvent tout bouleverser, ça perd un intérêt et on ne peut pas non plus trop faire de stratégie. Donc je trouve intéressant sur le contenu.
Azilis a quand même gagné.
J'ai gagné. Bon.
Alors pourquoi Cyrielle est si forte?
Mais bon, du coup, c'est pas vraiment une question de mérite. Et ça m'a un peu posé la question de comment on fait pour allier... le message qu'on veut faire passer et que ça reste fun. Parce que par exemple, il y avait des petites infos sociologiques qui étaient intéressantes, mais bon, on était en train de jouer.
Ouais,
et
d'accord.
Franchement, ça me.
ça me soulève. Ouais, un peu, et puis rapidement, on a vite à pas lire et à passer rapidement. C'est ça?
Ouais. Moi, je vais te laisser la parole, Brian, maintenant pour ton jeu.
Alors, moi, je vais présenter un jeu qui s'appelle Who's She? Alors, c'est un qui-est revisité féministe qui défend la place de la femme et l'égalité entre les genres. Donc c'est un jeu qui a été commercialisé en février 2019. Derrière la création de ce jeu se cache la préoccupation d'une maman. Remontons quelques années en arrière. Zuzia Kozerska-Girard. Excuse-moi Zuzia, je ne suis pas sûr d'avoir prononcé ton nom de famille correctement. Alors Zuzia, tu étais enceinte d'une petite fille et tu désespérais en constatant que les jeux genrés ont la cote dans les grandes surfaces. Ce n'est pas le message que tu voulais faire passer à ton enfant. Qu'importe, si le jeu de tes rêves n'existe pas, tu vas l'inventer. L'idée d'une version revisitée du qui-est l'a séduit. Le système du jeu est simple et amusant. Elle s'entoure alors d'une amie et de son compagnon pour la concrétiser. Les prototypes en bois sont d'abord conçus dans un garage. En décembre 2018, elle lance un Kickstarter pour permettre à son projet de décoller. C'est la révélation. Si elle ne s'attendait qu'à récolter quelques dizaines de milliers d'euros, les internautes l'encouragent à hauteur de 100 000 euros. Adieu le garage, aujourd'hui, le jeu est assemblé dans un atelier et s'exporte dans plusieurs pays.
Et c'est vrai que ça fait plaisir... T'allais dire quelque chose ?
Non, pas du tout.
Ça fait plaisir, la dernière fois, j'ai juste y pensé et je me souviens plus le nom du jeu malheureusement, mais j'étais à la fabrique à jeux et je jouais à un jeu où il faut deviner, c'est très bizarre, quand est-ce qu'une personnalité est morte et les raisons de sa mort. Bon, c'est assez rigolo. Et en fait, il y avait quand même beaucoup d'hommes, quoi.
Oui.
Voilà. Donc,
En termes de personnalités connues, de toute manière, quand tu remontes dans l'histoire, il y a quand même assez peu de femmes aussi. L'histoire a été écrite par les hommes.
Bien sûr, exactement, bien sûr, tout à fait.
Qui est-ce nous, avec des copains et des copines, on l'avait offert pour des anniversaires. C'est un bon cadeau d'anniversaire où tu changes les personnages par des personnages de groupes, de bandes. Voilà. Petit conseil avant Noël. Voilà.
Oui, c'est un cadeau personnalisé. Voilà.
Complètement. Et je passe la parole à Annelise pour son jeu Tranquillité.
Alors moi, je voulais juste, je ne sais pas si je suis parfaitement dans le thème, mais je voulais juste crier à la gloire des jeux coop. Franchement, j'aime les jeux de société, mais j'ai un cœur trop fragile pour les supporter. L'enfer, c'est les autres. Ce sont les mauvais joueurs qui t'en veulent de réussir, ces amis qui retournent leur veste, les regards en coin, les messes basses, les soirées gâchées à se taper dessus parce qu'il y en a un qui prenait la partie un peu trop au sérieux, sans parler des yeux éborgnés par les nerveux qui jouent au Jungle Speed. Alors quand j'ai découvert le jeu coop, moi je vous le dis, j'ai adoré. Le jeu c'était Tranquillité, un jeu superbe à l'univers très onirique où on est tous unis contre le jeu pour gagner. Et vous étiez tous là, chers collègues, quand j'y ai joué pour la première fois autour d'une table de la fabrique à jeux, à nouveau, qui je rappelle du coup est un bar à jeux très chouette sur l'île Feydeau de Nantes. On ne se connaissait pas tous et on s'est découvert dans la complicité. Plus que dans la compétition. Wow.
C'était beau.
C'était beau. J'en fais un peu trop, mais en vrai, c'était super chouette d'avoir cette adrénaline tous ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Antoine nous avait dit que des fois, ça pouvait lui gâcher un peu le plaisir de...
Bah, des fois, il y avait un côté mal alpha dans les jeux coop qui fait qu'il n'était plus forcément coop. Mais là, c'était pas le cas.
Là, c'était pas le cas.
Faut jouer avec les bonnes personnes.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Quelle belle équipe.
Puis on avait gagné.
Et en plus, on avait gagné. Ouais. Que des bons souvenirs.
Et donc maintenant, après la présentation de ces trois jeux qui, en tout cas, sont plutôt positifs, Annelise, tu vas continuer à reprendre la parole puisque c'est le game.
C'est le game.
Et oui, tout à fait, c'est encore moi. Et je me retrouve à nouveau avec la section économique. Et vous savez, le pire, c'est que c'est moi qui l'ai choisi. Alors, on vient de parler de jeux qui réchauffent le cœur, qui font corps avec nos valeurs ou tout simplement qui nous font du bien. Mais en préparant l'émission, on s'est posé la question de savoir qui joue véritablement à ces jeux et surtout, surtout, à quoi jouent véritablement la plupart des gens. Alors, le grand gagnant, le number one, reste bien traditionnel. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Pour moi, c'est un mystère. Je ne connais pas une seule personne qui m'a dit avoir déjà fini une partie de Monopoly, pas une seule personne qui ne dit pas se faire chier à mourir sur le Monopoly. Et pourtant, acheter et vendre des propriétés, ça donne des papillons dans le ventre, puisque Hasbro, la maison d'édition du jeu, est toujours leader en France et en Europe. Alors le Monopoly est suivi de près par le Cluedo et par le Milborn, bien sûr. Si j'avais envie d'extrapoler, je dirais donc qu'on est des gros capitalistes, obsédés par la possession de biens dans une société où le monde appartient aux lièvres qui se lèvent tôt pour courir plus vite que les autres en regardant avec une curiosité malsaine chez les voisins. Je rigole, bien sûr, tout cela est plus compliqué, on est millionnaire ou détective le temps d'un jeu, loup-garou et sadique le temps d'un autre, on joue à la guerre, des fantasmes seulement, une sorte de catharsis peut-être, dont on peut quand même questionner les rêves et les ambitions. Surtout quand on voit que le Monopoly Junior est un best-seller chez les jeunes. Et oui, si le jeu de société est un jeu de sociabilité dont son nom tire l'origine, quelles interactions avec les autres nous apprend-il alors? Quelles sont ces règles si indispensables à la vie de société qu'on enseigne aux plus jeunes? Jouer aux adultes, à la papa et à la maman, aux banquiers, aux rois? Encore une fois, une réflexion à nuancer, puisque si chacun va prendre un rôle dans le contexte donné du jeu, celui-ci, avec le recul, nous enseigne pléthore de notions véritablement importantes, telles que la frustration, la défaite, mais aussi la confiance en soi, l'envie de participer et d'apporter son grain de riz. Des notions largement développées par Brian lors de notre première émission sur les jeux et l'enfance, que vous pouvez retrouver en streaming sur le site de prune.net d'ailleurs, podcast Le Club des Platistes. J'en profite pour dire que le lien argent et jeu sera notre prochain sujet, celui de janvier. Parenthèse faite. Bien sûr, on retrouve parmi les jeux les plus vendus certains bien plus innocents, sans notion d'argent bien sûr, mais avec toujours l'adrénaline d'arriver premier ou de construire le plus gros royaume. Uno, Donjons et Dragons, la bataille navale, etc. Pour vous les copains, je me suis tapé une vidéo d'un quart d'heure d'une maman et son fils qui jouent à croque-carotte.
Ah oui,
c'est... Ouais, je peux vous dire, j'étais à cran de savoir qui de Swan ou de Néo se tapera le pont-levis dans la gueule ou se fera bouffer par une taupe.
Oh non.
C'est Swan qui a gagné, okay. C'est en passant, si vous n'en pouviez plus savoir.
J'adore ce prénom, donc ça...
C'est vrai que c'est sympa. Sur le site de Jouer Club, je découvre avec surprise que le jeu Blanc Manger Coco, qui se vend à plus de 1 500 exemplaires, est un jeu pour adultes, pensé apparemment par des enfants et des adolescents. Surprenant quand sur la page web du jeu, on découvre en premier lieu l'association de 4 cartes, à savoir « Tout ce que je souhaite pour ma fille, c'est » à associer donc avec, au choix, un plan cul fiable, Ebola ou une étagère Billy. Pensé par les enfants, vraiment. Pire encore, 2 cartes en photo associent la phrase suivante, toujours sur le site web, de Blanc Manger Coco. 200 mètres carrés orientés plein sud, calme au standing et le petit plus est à la cave, une fille qui fait plus que ses 15 ans. transgressif ou culture du viol. Ce jeu propose, à la manière du cadavre esqui, d'associer des cartes à trous ensemble pour réaliser des phrases eh bien rigolotes. Si, je vous assure, j'ai quand même des souvenirs assez grotesques et on s'en veut de parties où on rit pleine balle sur fond d'humour noir. Mais c'est vrai quoi, on peut plus rien dire.
Oh, c'est vrai. On peut plus rien dire.
Merci Azilis.
Non, c'était Anne-Lise.
Anne-Lise.
Je peux me remercier.
Ben, merci à tous.
C'est la deuxième fois que ça arrive.
Alors maintenant, nous allons passer la musique, non pas de Thomas Pasquier, mais de Thomas Gauthier, privilégié.
À côté de la mienne, ta vie, c'est de la pure merde. Pour mon éducation, j'ai pas payé une fucking scène. Mon papa a un bon boulot, je suis dans la classe moyenne. Ma jeunesse, je l'ai passé sur MSN. Fuck the police. Puis je suis rentré dans le mur.
Disrespect.
Riche et célèbre, mais j'ai jamais travaillé dur. Quand je rencontre ma belle-mère,
y'a pas de problème.
Quand je marche seul dehors le soir,
y'a pas de problème.
Je dépense irresponsablement,
y'a pas de problème.
J'ai des picots sur le bout du bout. Les jaloux disent que je suis fucking privilégié. Mais tout ce que j'ai dans la vie, je l'ai fucking mérité. D'important, j'ai rien à raconter. Okay. On m'a quand même donné mon émission de télévision. La seule fois que je me suis senti en danger, c'est quand j'ai rencontré un homophobe qui pensait que j'étais gay. J'suis tanné de triste. J'fais semblant d'être vulnérable pour que tu t'attaches à moi. Tu dis que ça va bien aller. Ça va bien depuis que j'suis né. Quand c'est la crise du logement.
C'était Thomas Gauthier avec sa musique privilégiée. Et maintenant, c'est Antoine qui va nous présenter un jeu qui s'appelle Privilège, justement.
Let's play.
Here we go!
Alors, Can You, ou le jeu des privilèges de Claire Vimont, édité par Topla, c'est un jeu de cartes et l'idée du jeu, c'est d'essayer de se mettre à la place des autres pour sentir ou aborder la notion de privilège. Je vous ai distribué une carte chacun, une carte personnage. Vous l'avez lue normalement. À noter que les textes sont traduits en anglais, espagnol et allemand. Et donc, alors normalement, dans le jeu, vous êtes toutes et tous censés vous placer au fond d'une salle. Et moi, je vais vous lire des affirmations. Si vous pensez posséder ce privilège, vous avancez d'un pas. Voilà. Et à la fin, une fois que j'ai lu plein d'affirmations, on voit qui est-ce qui est devant. Mais là, du coup, on va dire que vous faites un petit trait sur votre feuille de papier. Et puis attention, parfois, il faut se justifier. Enfin, voilà, c'est un jeu qui, évidemment, amène des débats. Un privilège, c'est quoi ? C'est un avantage obtenu sans faire d'effort. Voilà, donc ça peut dépendre selon le genre, la classe sociale, l'orientation sexuelle, l'état de santé, l'âge, l'apparence physique, l'origine ethnique, la religion. Et l'idée, c'est de comprendre si on a des privilèges. Elle précise dans ses règles du jeu que c'est un jeu qui a été développé en France métropolitaine et que selon les pays, effectivement, ça peut varier. Donc ça reste, voilà, le précise. Je pense que dans l'idéal, mais là on n'aura pas le temps, il faudrait lire toutes les affirmations. Il y a au moins une quarantaine de cartes et après on fait le point. Et l'idée après, c'est de faire un débat et d'échanger. Là, on peut, Alors, par exemple, je vais vous laisser présenter vos personnages.
Ouais, moi, je suis Marc, j'ai 18 ans, donc je suis un garçon et je passe mes soirées à jouer aux jeux vidéo. Je suis amoureux d'un garçon de ma classe, mais personne ne le sait, à part mon meilleur ami. Et vu que je viens de le dire à la radio...
Marc, je l'aime bien déjà. Alors, moi, c'est Emma, j'ai 15 ans. Je suis une personne intersexe blanche et je suis en couple avec une fille de ma classe. Et on fait du roller, on adore ça.
Eh bien, je m'appelle Pedro. J'ai 15 ans. Il y a 2 ans, j'ai déménagé dans un pays dont je ne parlais pas la langue. J'adore la culture drag queen et je me considère comme bisexuel.
Alors moi, je suis Stéphane. Stéphane ? Non, je pense Stéphane. Ça va ? Tu ne me corriges pas à l'antenne, s'il te plaît ?
Je vais commencer.
Stéphane, j'ai 22 ans. Je suis un garçon noir. J'ai déjà été victime de violences sexuelles et je joue au foot sur mon temps libre.
Alors, première affirmation... Je n'ai jamais eu de contrôle de la police à cause de ma couleur de peau. Si vous pensez avoir ce privilège-là, vous mettez un bâton. Voilà.
J'ai un bâton, moi.
Bâton, bâton. Je peux vous en lire une autre. Je me sens à l'aise dans les vestiaires de sport. Ah, là déjà, est-ce que vous pensez que c'est un avantage ?
Je suis une adolescente, enfin adolescent ou adolescente. Dans les vestiaires, on n'est pas à l'aise.
C'est vrai.
Oui, c'est clair que c'est dur de faire un bâton. Ouais.
Victime de violences sexuelles, j'imagine que ça peut être quelque chose. Ça peut être un trigger, oui, j'imagine. De devoir se mettre nu.
Je peux facilement prendre les transports en commun.
Alors moi, j'ai des rollers. Alors, est-ce qu'on prend vraiment les transports en commun ?
Tu les prends à la main, s'il te plaît.
Comme tout le monde. Okay.
Après 19h.
Je peux vivre dans un quartier sécurisé avec un accès facile au commerce et à la culture.
Ah, est-ce que c'est le genre d'endroit où on vit
J'ai pas assez d'informations. Ouais, ouais.
Là, moi, je sais pas dans quel pays il vient d'aménager, donc voilà.
Ah, je vais mettre oui.
Donc, je vais en dire une dernière. Je peux tenir la main de mon copain ou ma copine dans la rue.
Moi, je ne suis pas sûre qu'il soit au courant que je suis amoureux de lui. Donc,
Depuis 2 minutes, la France entière le sait. Tu l'as dit à la radio. Oui.
Moi, vu mon personnage, ça dépend des périodes. Donc, voilà.
Ah ouais. Donc là, je pourrais lire encore une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine d'affirmations et on ferait le point. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a des bâtons qui se...
Alors, moi, j'en ai mis 2. Alors, tout en...
J'en ai mis qu'un.
J'ai 2 bâtons.
Ah, j'en ai 3, donc je pense que je suis la plus privilégiée.
Voilà. Après, évidemment, l'idée, c'est d'avoir une discussion sur pourquoi on pense avoir ces privilèges-là.
Tout à fait.
Voilà.
Et de réaliser que c'est pas nous, pas la personne qui met les bâtons, mais c'est nous, ce qu'on pense de la personne, qui mettons les bâtons. Je sais pas si...
Oui. Toi, Zélie, t'avais mis quoi pour se tenir la main pour
Là, j'ai pas mis de bâton parce que je me disais, vu que je suis amoureux de ce garçon-là, je pense que je n'oserais pas le faire dans la rue.
Moi, si c'est un secret, j'imagine que...
Et même si c'est pas un secret, je pense que c'est plus difficile de garçons qui se tiennent la main dans la rue... qu'un garçon ou une fille.
Ouais, sans doute. Moi, je me suis posé la question, Emma, elle sort avec une fille de sa classe. En même temps, aujourd'hui, je sais pas, moi, je suis avec quelqu'un, je lui tiens la main dans la rue. Donc, je sais pas trop. Ça dépend de dans quelle ville, dans quel quartier, dans... Enfin,
et à quel âge ?
À quel âge ?
Tout à fait.
Oui, oui, puis on rejoint ce que disait Antoine, du coup, ça dépend des pays, voilà. C'est ça.
Aussi,
oui, complètement, complètement.
Voilà le jeu des privilèges, donc, de Claire Vimon, et merci à Cyrielle de l'avoir dégoté. Voilà. À pioche, par hasard,
complètement par hasard. En arrivant, on le cherchait, on en avait discuté. Et comme par hasard, il y avait l'association Discutons 44 que va nous présenter Brian, qui était là et qui nous a décoté ce petit jeu bien sympa.
Tout merveilleux.
Alors ce petit jeu, moi en tout cas, je l'ai bien aimé, moi qui travaille avec des adolescents, je vais peut-être l'acheter justement. Alors ce jeu, du coup, il nous a été prêté par l'association Discutons. Alors Discutons, c'est une association qui promeut l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, qui produit et relaie du contenu en lien avec cette éducation. Ils ont la mission de lutter contre les inégalités et les discriminations et de mettre en place des partenariats pour mieux accompagner cette démarche. Voilà pour en tout cas cette association. Maintenant, nous allons pouvoir écouter la chanson Kid de Barbara Pravis.
Tu seras gentille, ma fille, je ne veux voir aucun air
contrarié. Sur ton joli minois, tu devrais remercier toutes celles qui ont lutté pour que toi, tu puisses faire tes choix et te surpasser. Tu seras docile, ma fille. Je ne veux voir aucune once de fatigue, ni de cernes, ni de gestes qui veulent dire, et Dieu sait qu'il faut être une mère et pouvoir tenir, travailler, entretenir le foyer. Tu seras jolie, ma fille. Ta silhouette, sa minceur, l'esthétique, les figures imposées, les dictates, le verdict. Il faut être belle pour se faire aimer, même quand les regards seront lubriques. Tu seras habile, ma fille, pour tirer ton épingle du jeu. D'Athéna ou Vénus, sois les devoirs bien plus. Tu voudrais t'en sortir sans souffrir d'être une femme aujourd'hui, mais ça n'y compte pas. Au fond, tu n'as pas le choix. Au fond, tu n'as pas le choix. Tu seras gentille, ma fille. Je veux voir ton teint rose se noircir de rimmel quand il part et qu'il n'ose pas te dire que l'amour a fané pour de bon et qu'il t'embobine sans avouer ses raisons. Tu seras docile, ma fille. Tu iras presque jusqu'à jouer pour une place, pour un rôle, un jeu déjà truqué. Si tu encours le risque, tu pourras toujours balancer, accabler ton clavier. Tu seras jolie, ma fille. Photoshop, réseau en abondance, parce que tout doit briller dans ton monde parfait. Des selfies, des duck face sans tout sens, dans cette folle course au like, quelle place pour le vrai. Tu seras habile, ma fille, bien consciente de vivre dans un monde déréglé, délirant, qui te ronge et t'agace, sans savoir où te mettre, s'il faut dire ou se taire. Tu vivras comme te dicte la masse, mais au fond, tu n'as pas le choix. Au fond, tu n'as pas le choix. Et moi, qui suis l'une de ces filles, dis-moi, dis-moi, quelle place j'ai aujourd'hui. C'est quoi le bon compromis pour éviter les pièges et réussir ma vie.
C'était Kid de Barbara Pravis. Et maintenant, on va pouvoir répondre à notre énigme début d'émission. Alors Cyrielle.
Le club des platistes sur Prune 92 FM.
Alors, je vous rappelle ma petite histoire. C'est l'histoire d'une chauffeuse de taxi qui est très très pressée et elle s'engage à toute vitesse dans une ruelle à sens interdit. Là, elle croise un policier qui l'arrête. Ils discutent et la chauffeuse de taxi repart tranquillement. Comment cela se peut-il ?
Est-ce qu'elle est à pied ?
Oh, c'était oh, trop facile ! C'est ça ! Oh, je suis trop contente !
Guildouane, dans tes dents !
Tu m'as grillé, oh là là !
C'était ça que t'allais dire ?
C'était quoi ton autre supposition, Guildouane ?
Elle aurait pu être dans le bon sens de la ruelle, où le policier aurait pu être à bord, mais du coup, quand j'ai écouté, t'as bien dit « et croise », et voilà, c'était quoi plus ça.
Ah oui.
Je pensais qu'elle était sur le point d'accoucher, moi, mais en fait, c'était pas une énigme.
C'est ça, moi, je voyais tellement de choses. Bah, c'était un ami, le policier, peut-être.
Et du coup, il lui a fait cadeau de l'amende. Il s'est dit, voilà, en tant que femme, elle a discuté et puis elle n'a pas eu d'amende face à un homme. Non, c'était même pas
bravo,
ça.
Bravo,
elle
Asilis.
Était à pied, bravo, Asilis.
Elle a pris le panneau 0, sans s'interdire, elle a frappé le plus policier avec.
Et elle était plus détendue pour repartir.
Je pensais que c'était comme l'énigme avec l'histoire de médecin, où on dit médecin, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et là, je pensais que c'était peut-être une policière, mais je me suis dit, en fait, ça change quoi ?
En plus,
ça ne marchait pas, du coup.
C'est vrai, ça n'aurait pas fonctionné. Bravo, Asilis.
Eh bien, merci, Cyrielle, pour ton énigme. Et on arrive à la fin de cette émission.
Oh non.
Et oui, et ben, pour conclure, je dirais, en tout cas, par rapport à, pour revenir en tout cas à notre sujet principal, qui était, voilà, est-ce que les jeux de société avancent aussi vite que la société ? Je dirais qu'en tout cas, on a tous nos différences et nos difficultés. Et c'est OK. Mais il faut penser à les prendre en compte quand on joue, et surtout quand on joue avec des enfants. Donc, accompagner, oui, mais pas rouspéter. Comprendre, oui, mais pas juger. Nous avons tous nos points forts et nos points faibles. Lorsque j'entends « il n'y arrive pas, pourtant c'est facile, tous les autres y arrivent », eh oui, mais lui, c'est pas tout le monde, c'est pas toi, c'est lui. Donc pour terminer, nous avons pu voir que certains jeux s'adaptent, d'autres vieillissent, mais de manière générale, la culture a tendance à s'adapter au monde dans lequel on vit. Les jeux de société en font de même. Ce qui nous ferait plaisir, nous à Prune, c'est de voir des règles de jeu moins genrées. Joueuses et joueurs, maîtresses du jeu et maîtres du jeu, des narracisés, des princes à sauver, je sais pas. Voilà, notre prochaine émission aura pour thème les jeux d'argent. Donc appelez votre banquier, préparez votre porte-monnaie. Ce sera le dimanche 8 janvier de 13h à 14h. On se dit au mois prochain. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye. Bye, bye. Bon à dimanche. Bientôt.
Game over.